mentionne qu'il n'y a peut-être pas de volonté de rouvrir l'accord en vue de l'améliorer. Je suis plutôt d'avis que chacune des États parties à l'ALENA est en faveur de réouvrir l'accord pour l'améliorer, mais ce dans le sens de ses propres intérêts. Le problème, c'est que les trois États parties à l'ALENA ont des désaccords fondamentaux quant à la direction à prendre pour l'ALENA ou des divergences fondamentales quant à ce qui est nécessaire pour améliorer le traité. On sait, je le mentionnais tout à l'heure, que le Mexique aurait voulu la mise en place de mécanismes pour favoriser une plus grande solidarité, entre autres pour favoriser un plus grand développement du Mexique, ce qui n'a pas été possible. On sait qu'en ce qui concerne le Canada, ce dernier aurait voulu des améliorations aux mécanismes de règlement des différends, et ce surtout depuis 2005, qui avait été marqué par le non-respect du caractère exécutoire du chapitre 19 de l'ALENA, qui, et ça évidemment dans la foulée de l'affaire du bois d'œuvre. Or, ceux et celles qui ont bien suivi les négociations bilatérales de libre-échange entre le Canada et les États-Unis dans les années 80 se souviennent que le caractère exécutoire du chapitre 19 avait été une condition dite sine qua non pour que le Canada accepte la signature d'un accord de libre-échange et qu'il le considère comme étant dans le sens de ses intérêts. On sait tous aussi qu'on a beaucoup insisté pour dire que ce sont les événements tragiques du 11 septembre 2001 qui avaient amené les États-Unis à devenir si unilatéraux ou à adopter une démarche si unilatérale, notamment au vu de ce qu'on a appelé depuis l'obsession sécuritaire des États-Unis, qui aurait fortement compromis l'intégration économique nord-américaine, notamment le flux des échanges commerciaux entre les partenaires de l'ALENA, notamment ce qui concerne les mesures à la frontière américaine. Ce qui avait amené certains, on s'en souvient, à souligner l'idée ou la nécessité d'une forme supérieure d'intégration économique sous la forme d'un grand bargain qui permettrait de rencontrer le souci sécuritaire des Américains tout en permettant des échanges fluides entre les partenaires de l'ALENA. Or, si on se centre trop sur les événements du 11 septembre 2001 qui, sans conteste, ont marqué un tournant dans l'intégration nord-américaine, il me semble que les désaccords fondamentaux quant à la direction à prendre pour l'ALENA précédaient les événements terroristes de 2001. De sorte que il semble que l'ALENA ait marqué un temps une certaine convergence dans les vues des trois États parties, mais que depuis, cette convergence de vues ne se soit pas manifestée, ce qui expliquerait finalement ce blocage quant au développement du régime en tant que tel de l'ALENA. On mentionne aussi dans le programme l'idée d'ouvrir ce qu'on appelle la boîte noire des institutions de l'ALENA. C'est toujours une question qui m'amuse, parce qu'on sait que les trois États parties à l'ALENA sont éminemment asymétriques. Les États-Unis représentent à peu près 9 fois l'économie canadienne, et les États-Unis à peu près 15 fois l'économie mexicaine. Alors, s'il y avait des institutions communes, j'aimerais bien qu'on m'explique comment elles pourraient fonctionner. Entre autres, comment pourrait-on prendre des décisions dans de telles institutions? On imagine l'ironie d'un système qui voudrait que chaque État ait une voix. Mais j'imagine bien que les États-Unis risqueraient d'être mis en minorité régulièrement, alors que de loin, c'est le partenaire principal. Ou alors, certains diraient, allons-y d'un mécanisme de vote pondéré, qui, encore une fois, ne réglerait absolument pas la question, au vu que les États-Unis à eux seuls seraient en mesure de dicter la prise de décision, parce que même avec le Canada et le Mexique ensemble, ils ne sont pas de taille devant la taille du pays américain. Donc, on peut comprendre qu'on ait préféré laisser la mise en œuvre de l'ALENA à ce qu'on appelle les mécanismes diplomatiques ou les canaux diplomatiques traditionnels. Enfin, ça n'exclut pas de voir comment l'ALENA pourrait avoir certaines institutions, mais on voit à quel point c'est une question assez délicate politiquement et assez complexe. Un autre thème de notre colloque au cours des deux prochains jours, c'est celui des autres modèles d'intégration. Or, si il ne semble plus qu'il y ait ce qu'on a appelé, du moins dans les premières années, une véritable dynamique d'intégration continentale en Amérique du Nord, on voit que les choses bougent, que ce soit par rapport au partenariat transpacifique, ou alors déjà dans les années 2000, l'accord commercial entre le Mexique et l'Union européenne, ou plus récemment, l'accord économique et commercial global qui vient d'être conclu entre le Canada et l'Union européenne. Et à ce chapitre, je mentionnais tout à l'heure le modèle d'intégration qu'on a associé à l'ALENA. Il est intéressant de noter que le Canada a plus ou moins parvenu à imposer sa propre approche de négociation en matière de services, dit de la liste négative, ou plutôt ce qui, alors que l'on sait que l'Union européenne, jusqu'à date, n'avait conclu que des accords commerciaux en fonction de l'approche dite de la liste positive, c'est-à-dire que l'on s'entend au départ sur les secteurs que l'on veut libéraliser et des conditions de libéralisation. Alors que le Canada, suivant en cela les États-Unis, préfère une approche dite de la liste négative qui fait en sorte que tout est libéralisé, sauf ce qui fait spécifiquement l'objet d'exceptions. Alors, pour les Européens, cette approche canadienne qui leur a été imposée, évidemment, l'Europe a fini par l'accepter, mais il est quand même notable de souligner que c'est le partenaire junior ou mineur dans cette négociation qui est parvenu à convaincre son partenaire plus important d'adopter l'approche que celui avait préconisée. Et donc, on peut imaginer quand tous les États membres de l'Union européenne, pour la première fois dans leur histoire, ont dû arrêter de manière très précise, ou tout le moins le plus précisément possible, toutes les exceptions qu'ils entendaient mettre de l'avant dans le cadre des négociations. Encore une fois, on peut associer, je crois, cette idée de liste négative, tout est libéralisé sauf des exceptions spécifiques, à un certain modèle de l'ALENA qui, me semble-t-il, se serait exporté vers l'Europe. Et il sera intéressant de voir ce qu'il en sera pour d'autres négociations de ce type. On parle aussi, c'est le troisième thème, d'une nouvelle conjoncture économique. On parle notamment, parmi les spécialistes économiques, des chaînes de valeur. Et on parle depuis plus longtemps en Amérique du Nord des échanges ou, au contraire, de ce qu'on appelle aussi le commerce intra-firme. Et on a longtemps fait valoir que le commerce intra-firme était plus important en Amérique du Nord parce qu'il y avait déjà, même avant la mise en place du libre-échange, une certaine intégration à l'échelle nord-américaine de la production. Or, il semble maintenant que le commerce intra-firme soit aussi une caractéristique du commerce mondial. Ce qui nous amène à nous poser la question dans quelle mesure l'intégration nord-américaine ou le contexte nord-américain est spécifique ou si à présent il ne correspond tout simplement pas à ce que l'on observe de manière plus générale dans le monde. Pour ce qui est de la nouvelle conjoncture, je ne peux non plus m'empêcher de souligner ce qui semble être une diminution, sinon de l'interdépendance, pour certains qui préféreront le terme de dépendance commerciale, du Mexique et du Canada par rapport à l'économie américaine. Pour ne citer que les chiffres concernant le Canada, on estime que depuis environ 2008, un peu moins de 70% des exportations canadiennes sont destinées au marché américain. Or, en 2001, cette proportion était de 87%. On ne peut certainement pas parler de désintégration, mais certainement l'interdépendance semble diminuer. La raison, évidemment, c'est que d'autres partenaires, des pays tiers en fait, jouent un rôle de plus en plus important au sein de la région économique de l'ALENA, mais sans en faire partie. Ce qui amène évidemment en français à pouvoir faire cette ironie que la Chine est le plus important État parti que l'ALENA n'ait jamais eu. Le quatrième thème touche à l'idée de l'espace nord-américain. Et on souligne à juste titre que l'espace nord-américain est plus qu'économique, qu'il est aussi social, culturel, politique et juridique. Mais là, me semble-t-il, on ne peut s'empêcher de noter que si l'ALENA est d'abord et avant tout un accord économique et commercial, et que sur le plan économique, on sait que le régime de l'ALENA est bloqué, on comprendra encore plus que pour ce qui concerne les autres aspects, très peu de développement, au moins formel au niveau de la volonté exprimée des gouvernements des États membres ou des États parties, ne se soit guère manifesté. Mais évidemment, quand on parle d'un espace nord-américain qui est plus qu'économique, on se rappellera qu'au début de la mise en place de l'ALENA, on avait mis l'accent sur ce qu'on appelait les études nord-américaines, où on entendait mettre l'accent de plus en plus sur l'idée de l'Amérique du Nord comme une région, faisant un peu parallèle à ce que l'on voit pour ce qui touche l'Europe. Et on traitait beaucoup de la question de l'émergence d'une identité nord-américaine. Inutile de dire qu'avec les difficultés rencontrées par l'ALENA, notamment l'absence de momentum au cours des dernières années, l'idée du développement d'une identité nord-américaine ou de la consolidation d'une région nord-américaine n'est plus vraiment à l'ordre du jour, mais la réflexion qui doit accompagner ces thèmes est toujours de mise, ne serait-ce que pour tenter d'y voir plus clair. En conclusion, au cours des deux prochains jours, nous assisterons à des tables rondes et à des ateliers autour des questions des transformations et des perspectives de l'économie nord-américaine, autour du thème de l'économie américaine et des relations canado-américaines post-ALENA, des impacts sociaux de l'ALENA, de l'impact de l'ALENA sur l'économie mexicaine et sur l'économie québécoise. On abordera, je le disais, la question de l'identité nord-américaine et on terminera par une comparaison avec d'autres régionalismes dans le monde. Ce qui m'amène à nous souhaiter à tous un bon colloque, des échanges fructueux qui feront en sorte, je l'espère, de montrer que l'intégration nord-américaine, malgré la série de problèmes ou de problématiques qui l'accompagnent, demeure un sujet incontournable pour quiconque veut comprendre les grandes tendances économiques et autres qui marquent notre monde. Merci.